Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Merci pour votre fidélité à Radio Kapi. Au sommaire, ce matin, la Commission électorale nationale indépendante rassure la population des Bolobos dans la province de Maïndombé du redéploiement imminent des matériels électoraux. C'est après l'incendie qui avait consumé la nuit du 29 novembre dernier l'entrepôt de la CENI et tous les matériels importants de vote. COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La RDC va bénéficier d'une aide de 70 millions d'euros afin de renforcer sa nouvelle économie du climat. Ces fonds vont également aider le pays à soutenir son marché carbone au niveau légal, scientifique et du registre national. Prince Kalemé du Centre de recherche en sciences naturelles de l'Uiro au Sud Kivu est l'invité de ce journal. Il revient sur les travaux de recherche menés sur le territoire de Calais, notamment dans les sites où vont être localisés les sinistrés de Bouchouchou et Nyamukubi. Sachez tout d'abord qu'au Nord Kivu, une accalmie précaire a été observée hier lundi après-midi autour de Sake et Mushaki en territoire de Masisi. C'est après des violents combats qui ont opposé tôt le matin les FRDC et groupes armés aux rebelles du M23 dans les villages proches de ces deux cités. Selon plusieurs sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères avaient baissé d'intensité. Cependant, les mouvements de population civile qui fuient les combats s'accélèrent. Dans l'actualité ce matin, la Commission électorale nationale indépendante rassure la population des Bolobos du redéploiement imminent de matériels électoraux. C'est après l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit du 29 novembre dernier à l'entrepôt de l'antenne de la CENI de cette entité située dans la province de Maïndombé. Incendie, vous le savez, ayant détruit les bâtiments ainsi que les matériels importants, notamment sa centrale à dispositifs électroniques de vote. Selon les directeurs de communication de la CENI, toutes les dispositions sont également prises pour le déploiement de matériel dans l'ensemble du pays. Jean-Baptiste Itipo invite la population congolaise à se préparer pour aller voter le 20 décembre prochain. Il s'est confié à Grâce Amzati Massanzi.
Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut dire à la population qui nous écoute, c'est que les électeurs de Bolobo participeront bel et bien aux élections. Vous savez que cette fois-ci, la CENI a déployé le matériel dans le plus grand silence, notamment pour éviter ce genre de vandalisme auquel on ne s'attend pas toujours. Rassurez-vous que toutes les dispositions sont prises et le matériel arrive bientôt à Bolobo. Bolobo-Kinshasa, c'est tout au plus 2 jours de navigation. Kinshasa, vous ne voyez pas encore le mouvement parce que Kinshasa, c'est le moindre des soucis en termes de déploiement logistique pour la CENI. Tout au plus 2 à 3 jours, on peut finir Kinshasa. Et pour le Congo central, tout au plus 4 à 5 jours, on peut finir le déploiement. La politique utilisée par la CENI était d'abord de privilégier les coins à accès difficile, les coins plus éloignés, de manière à ce que le matériel soit déjà positionné là-bas. Et donc que la population se prépare à aller, n'est-ce pas, au vote, à participer aux différents scrutins le 20 décembre 2023.
Et pendant ce temps, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, l'Église du Christ au Congo lance une campagne de sensibilisation de la population pour un vote utile. La campagne se déroule dans le quartier Église de Beni sous le thème « Engagement à opérer un choix responsable pour un avenir meilleur ». Le révérend pasteur Honoré Bunduki de l'ECC, recteur de l'Université bilingue du Congo, parle de l'importance de cette activité au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez, l'Église fait partie intégrante de la société civile et donc de nos communautés. Et il est important que l'Église, dans son rôle prophétique, continue à préparer le peuple de Dieu pour opérer des choix responsables. En fait, notre thème était tout simplement « Caractéristiques d'un bon citoyen ou bon dirigeant ». 2 points, engagement à opérer un choix responsable. Un message à 3 points importants. Le premier point qui parle d'abord des élections, le choix, c'est quoi? Le second point qui nous donne 3 exemples dans la Bible, des choix des leaders, des cadres dans la Bible, pour que cela nous inspire, pour opérer des choix responsables. Et ensuite, le dernier point, donner quelques caractéristiques d'un bon dirigeant, au moins 3 que nous avons données, afin que nous puissions nous préparer tous à opérer des choix qui vont permettre à ce que notre nation voie un avenir meilleur et que nous puissions avoir une nation meilleure à léguer à la postérité.
Par ailleurs, pour que règne la paix partout en cette période électorale, De nombreux leaders d'opinion venus des provinces du Haut-Katanga, du Kasaï central et du Lualaba signent un acte d'engagement. Chacun d'eux promet également de transmettre auprès des siens le même message. C'est sur cette note positive que s'est clôturé dimanche dernier à Kolwezi, dans les Lualaba, le forum provincial de paix et de cohabitation pacifique organisé par la commission épiscopale Justice et Paix qui a duré 4 jours. D'autres détails avec Alain Kipa, consultant à la commission épiscopale Justice et Paix, joint par Jean Gandou.
Les participants décident d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique, l'acceptation de l'autre, que le processus se passe dans la quiétude, que tout le monde, candidat, électeur, se sente en paix dans la province de Lualaba. Ce qui est plus important, c'est comment les gens vont faire pour matérialiser ce qui a été décidé au cours de ces assises. C'est là le vrai problème. Quel est le comportement des citoyens? Comment ils vont aller prêcher à leurs frères et sœurs que les élections, ça doit être un moment de joie et non un moment de division. Nous sentons la pression avec la campagne où les uns rejettent les autres et ça, ce n'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse vivre un moment de paix, un moment de tranquillité. Que ceux qui vont gagner, ils gagnent. Il y a des territoires où il n'y a que un siège pendant qu'il y a plus de 100 candidats. Ça demande que les gens acceptent qu'il y aura un qui sera élu et les autres ne seront pas élus, mais ils devront avoir le courage, comme les sportifs, de pouvoir saluer et encourager celui qui va gagner.
Dans la suite de la diffusion des interviews des candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain, Radio Okapi reçoit aujourd'hui Adolphe Muzito. L'ancien Premier ministre affirme avoir posé sa candidature à la magistrature suprême parce qu'il veut relever l'économie de la RDC. Le candidat numéro 24 dit que c'est en guise de reconnaissance du fait que c'est l'État congolais qui avait supporté tout son cursus académique. On écoute Adolphe Muzito au micro de Jocelyne Moussa Opondé et de Gumaté.
Je suis de famille d'origine modeste. C'est grâce à l'État congolais que j'ai réussi à avoir un diplôme de l'université en sciences économiques. Ma préoccupation, c'était servir l'État en récompense à ce que j'ai reçu comme enseignement gratuitement, ce qui ne serait pas possible avec la situation sociale de ma famille. Voilà ce sens des responsabilités. Là encore, j'ai lutté à côté de M. Antoine Gizenga et nous avons réussi à avoir le pouvoir. Je me suis engagé et j'ai eu l'opportunité d'être désigné Premier ministre à l'époque par M. Kabila, le président de la République. J'ai exercé des hautes fonctions de la République, mais j'ai senti comme si je n'étais pas arrivé à ma satisfaction ultime, celle de relever l'économie de notre pays. À partir de là, je me suis dit, bon, il faut continuer pour servir la nation. Voilà comment les choses se sont passées. Je me sens la responsabilité de continuer cette tâche-là afin d'aider mon pays. Et c'est dans ce cadre que je me suis fait candidat. Du moins, j'ai été désigné par les militants de mon parti comme candidat à la candidature.
Vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview exclusive à 8h30, 15h30, 20h, heure de Kinshasa, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Par ailleurs, comme vous le savez, la campagne électorale se poursuit. Adolphe Muzito était hier lundi à Tshikapa, dans la province du Kasaï, où il a évoqué son combat pour la libération du Congo et des Congolais. Moïse Katumbi était à Gbadolité, dans la province du Nord Ubangi, accompagné de Delice Sanga, qui s'est désisté dimanche dernier en sa faveur. Denis Mukwege était à Goma, au Nord Kivu. Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, depuis le centre d'appel de son quartier général de campagne à Kinshasa, a répondu toujours hier lundi aux questions de plusieurs Congolais. Et dans le même chapitre, la tenue prochaine des élections urbaines, municipales et locales présente une grande opportunité pour l'instauration d'une gouvernance à multiniveaux, gage du développement du pays à partir de la base. Mais cela ne peut être possible qu'avec la mise en application fidèle et rigoureuse de la loi de 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ainsi que celle de 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ces élections auront le mérite de rapprocher davantage les gouvernants des gouvernés et faire participer la base à la prise de décision et aux efforts de développement. De détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Avec les élections urbaines, municipales et locales, le peuple aura désormais le pouvoir de participer directement à la gouvernance de leurs entités territoriales décentralisées à travers les conseils respectifs de ces entités, et ce, en vertu des articles 4 et 30 de la loi de 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État. Désormais, les administrés pourront participer à la mobilisation des recettes locales afin de permettre aux nouveaux élus de répondre aux besoins d'intérêt général, et ce, conformément à l'article 33 de la même loi. Ce sera aussi l'occasion pour les administrés de suivre de près l'exécution des projets locaux conformément aux articles 34 à 37. Par ailleurs, il faut noter qu'en vertu de l'article 38, les entités territoriales décentralisées ont leurs propres ressources financières distinctes de celles du pouvoir central et de la province. Enfin, sur pied de l'article 5 de la loi de 2008 portant libre administration des provinces, la ville, la commune, les secteurs et les chefferies sont des entités territoriales décentralisées dotées d'une personnalité juridique, alors que le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités déconcentrées, dépourvues de la personnalité juridique.
Je le disais au sommaire, 62 millions de dollars américains, c'est le fonds obtenu par la République démocratique du Congo à la COP28 tenue à Dubaï afin de renforcer sa nouvelle économie du climat. D'après l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, il s'agit de l'un des succès de la participation de la RDC à ce sommet mondial du climat. Stéphanie Mbombo explique ici à quoi va servir ce fonds. Elle a été jointe par Grâce Hamzati Masanzi.
C'est la première fois qu'un pays du Sud va accéder à un fonds où ce pays lui-même a négocié le terme, la finalité, l'objectif et les normes pour accéder à ces fonds. De façon concrète, ce fonds va nous aider à structurer notre marché carbone au niveau légal, au niveau scientifique et au niveau de notre registre national. Donc il y a des infrastructures que nous devons mettre ensemble pour que notre marché carbone soit un marché de haute intégrité, de haute valeur et que nous puissions avoir un prix qui correspond à la valeur ajoutée que jouent nos forêts au niveau du monde. Ce fonds va spécifiquement servir au niveau de tourbières. Nous allons structurer les marchés carbone autour de tourbières, qui est quand même une réserve importante des milliards de dollars de crédit carbone par rapport au nombre de tonnes de CO2 qui régorgent nos tourbières. Voilà pourquoi ce fonds a été négocié et obtenu. Le deuxième succès de notre participation à la COP28, c'est aussi de recevoir le fonds pour créer l'Institut pour la nouvelle économie du climat du bassin du Congo. Vous savez que la nouvelle économie du climat est un domaine qui est nouveau, est une nouvelle matière, et nous devons tous faire de recherche, définir de façon globale notre portefeuille climat à travers tous les portefeuilles de l'État.
Au Kasaï oriental, début hier lundi en Mbujimayi, des travaux de la 46e session ordinaire du Conseil d'administration des universités du Congo. Cette session statutaire de deux jours réunit une quarantaine de personnalités parmi lesquelles les administrateurs et les recteurs des universités du pays. D'après le président intérimaire du Conseil d'administration, le but est d'améliorer la qualité de l'enseignement en examinant les problèmes qui entravent les bons fonctionnements des universités de la République démocratique du Congo. Esther Dalafina pour le reportage.
En ces premiers jours, chaque recteur a dressé l'état des lieux du fonctionnement de son institution universitaire. Plusieurs points évoqués sont presque similaires. Il s'agit de l'insuffisance des professeurs propres aux institutions universitaires, comme l'indique ici Abbé professeur Apollinaire Djibakachi Congo de l'université officielle de Mbujimayi.
Cette année, nous avons eu 9 professeurs propres et au début de l'année prochaine, on va en avoir 5 autres, ce qui va nous faire environ 46 professeurs propres. C'est trop peu. Nous dépendons beaucoup de professeurs qui viennent principalement de Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa. Cette année, on a importé 108 professeurs visiteurs.
Un autre point déploré par les recteurs est celui du taux élevé des déperditions académiques. Explication du professeur Nestor Ilunga Chikala, recteur de l'université de Kalemi dans la province du Tanganyika.
En début d'année, on constate une fréquentation d'environ 3500 étudiants, mais qui, à la fin de l'année, se réduit à un peu plus de 2000 seulement. Cela est lié aux difficultés économiques.
Signalons que ces travaux de deux jours vont se clôturer par des orientations claires applicables à toutes les universités de la RDC. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Radio Okapi vous propose une série de reportages sur le programme de développement local des 145 territoires sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles dans la province du Congo central notamment. D'abord avec la construction d'un centre de santé moderne au village Lukimba, secteur de Lufu, territoire de Sekebanza. Pour les habitants de ce village, ce centre va résoudre plusieurs problèmes de santé. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Paul Matendo qui revient fraîchement du Congo central.
Ce centre de santé comprend plusieurs services parmi lesquels la salle d'accouchement, la chirurgie, la consultation prénatale et autres. Pour les habitants de ce village Lukimba, c'est la première fois qu'ils bénéficient d'un tel ouvrage.
Nous sommes très ravis parce que tout le monde dans le milieu parle de cet ouvrage qu'on vient de nous placer dans notre village. C'est pour la toute première fois et ça c'est une histoire. Ça reste comme une histoire, c'est un bijou.
Toujours du côté des bénéficiaires, ce centre de santé va réduire le taux de mortalité dans les secteurs de Lufu.
On a beaucoup souffert à Lukimba. Et on avait seulement une centre de santé, une petite centre de santé là-bas. Et quand les gens sont malades, ils devaient aller ensemble là-bas, en Kionzo. On a perdu beaucoup de gens, de vies humaines. C'est tous les cas. S'il y a problème de maladie pendant la nuit, on a perdu beaucoup de gens. Vraiment, avec ça, vraiment, nous sommes ravis de joie. Vraiment très ravis de joie.
Tous les habitants de Lukimba n'attendent plus que son inauguration officielle.
Actualité internationale.
En Mauritanie, l'ancien président Ould Abdelaziz est condamné à 5 ans de prison ferme. Le jugement est enfin tombé. L'ancien chef de l'État en fonction de 2008 à 2019 était jugé depuis 10 mois aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités pour entre autres enrichissement illicite. Il se serait constitué un patrimoine et un capital d'environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Les procureurs avaient requis 20 ans de prison ferme il y a un mois. Au Nigeria, l'armée a bombardé par erreur un village dans l'État de Kaduna. Un bombardement qui a fait au moins 30 morts des civils dimanche soir pendant une célébration religieuse.
L'invité.
Prince Kalemé du Centre de recherche en sciences naturelles de l'Uiro, Sud Kivu, est l'invité de ce journal. Il revient sur les travaux de recherche menés dans les territoires de Calais, notamment sur les sites où vont être localisés les sinistrés de Bouchouchou et Nyamukubi, des sites qui méritent d'être protégés par les autorités selon les recommandations des chercheurs. Prince Kalemé s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Professeur Kalemé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parmi les scientifiques bien connus dans la province du Sud Kivu. Il est question de réfléchir sur les plans de relèvement post-catastrophe des inondations de Calais.
Notre institution avait été présente depuis les quelques jours après la catastrophe pour aller mener quelques recherches en collaboration avec d'autres institutions, notamment l'Université officielle de Bukavu. Des équipes ont pris un certain temps et ils avaient certains matériels de pointe pour pouvoir récolter un nombre de données. Nous avons aussi pris part à l'atelier de validation au niveau local à Calais. Et maintenant qu'il faut le faire au niveau provincial, nous sommes prêts à porter notre contribution, mais aussi proposer que peut-être quelques études un peu plus détaillées soient faites pour que les populations qui seront relocalisées ne tombent pas dans des pièges pour être placées à des endroits qui sont encore difficiles ou encore avoir des problèmes un peu plus tard, mais qu'au moins on ait des endroits qui sont plus sûrs pour que les populations aient ne fût-ce qu'une paix durable quand elles seront installées.
Quels sont les besoins prioritaires que vous avez pu relever lors de vos recherches?
Les besoins sont très 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 nombreux. Il y a beaucoup de besoins. Un des besoins est celui des sites propices où ces populations doivent être. Parce que tout de suite après la catastrophe, les gens se sont dispersés sans ordre. Alors, chacun s'est placé où il a pensé qu'il pouvait se placer, mais il y en a qui sont allés à des endroits qui sont aussi plus dangereux, sur de fortes pentes qui peuvent être sujets à d'autres catastrophes dans un proche avenir. Le trouver des endroits plus sûrs serait la meilleure des options. Un autre besoin, c'est plutôt des infrastructures de base. Et les gens sont partis, on ne sait pas, ils ont quel type de moyens de survie. Il y en a qui ont abandonné leurs champs et qui doivent être à 20-25 km. Certainement, c'est très difficile de rentrer pour surveiller les champs ou encore retrouver tel ou tel autre élément. Il y a les habitations et tout un tout, il y a beaucoup. Les soins médicaux et autres, certainement, ce sont des problèmes très sérieux, surtout les moyens de survie quand quelqu'un a perdu tout ce qu'il avait. Parce que la pluie est arrivée à l'improviste et personne ne pouvait prendre des dispositions pour dire qu'il sauvait quelque chose. Tout ça, ce sont des problèmes auxquels la population est sérieusement confrontée pour le moment.
La commission est-elle parvenue à visiter quelques sites qui seraient indispensables pour recevoir les sinistrés?
Pendant notre séjour à Calais, nous n'avons visité que Bouchouchou où le sinistre a eu lieu. Nous nous sommes arrêtés à un endroit seulement. et on n'a pas eu de temps matériel, mais je crois que les scientifiques, on est en train de penser que les scientifiques peuvent faire quelques descentes pour voir s'il faut explorer en détail certains endroits pour se rassurer que la relocation se fasse aux meilleurs endroits plutôt que des endroits qui peuvent être sujets à problèmes plus tard.
Au moins, vous avez réussi à visiter les sites où la première dame a pu ériger quelques 200 de maisons.
Nous étions là, c'est un endroit pratiquement mieux placé, sauf que c'est un endroit qui peut poser problème après, parce que cet endroit risque d'être un point où il y a un aéroport de secours pour suppléer à Kavumu. Alors, c'est un aéroport, un aérodrome plutôt au niveau provincial, qui peut faire un endroit de secours probablement pour la province, si bien que c'est un endroit qui ne semble pas pratiquement être en accord avec les populations locales qui eux-mêmes aussi avaient émis aussi des réserves pour cet endroit-là. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'autorité, tant provinciale que nationale, que des études qui ont été faites puissent ne fût-ce que bénéficier de quelques autres pour certainement cibler des endroits plus sûrs pour la relocation et que dans le plan de relèvement définitif, on puisse penser à des infrastructures de base pour la population. Quand on doit avoir un village ou une population installée, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin des endroits pour la récréation des enfants, ils ont besoin de structures de santé, ils ont besoin certainement des endroits où les enfants peuvent jouer, des terrains de jeu, des églises et autres. Cela est très 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 important, des endroits comme des marchés, il faut tenir compte de tout ça.
Professeur Kalem, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal qui a été préparé par Pelé Kipela Mondo. Merci à vous de l'avoir écouté.